Salut Otman.
Hello Nico.
Alors Otman, je suis ravi de te recevoir sur le podcast Comptoiria. Otman, donc toi tu es le roi des GPT. Je voulais absolument faire un épisode sur ce sujet et surtout un épisode avec toi parce que j'ai eu l'occasion de te rencontrer avec ma team favorite Argile avec qui tu as travaillé pendant quelques mois, Laodis et Brival. Et maintenant, donc, tu as créé Agency GPT, donc tu vas nous en dire plus. Mais avant tout, Otman, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'IA générative? Qu'est-ce que c'est que cette folie d'après toi?
Déjà, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui dans le podcast. C'est un vrai plaisir de pouvoir partager un peu de mon aventure et de ma vision de l'IA avec ton audience. Et pour ce qui se passe dans l'IA générative en ce moment, il se passe pas mal de choses. Je pense qu'on est d'abord en train de vivre un changement profond sur la notion de création, d'où le terme génératif. Donc, on génère des choses en utilisant des modèles d'IA. Et en fait, cette notion de création qui est en train de changer, elle est directement liée à la notion de travail. Donc, tout travail apparaît sans sa vocation de créer des choses. Et donc, en fait, l'IA générative, depuis que c'est devenu mainstream et que tout le monde commence à l'utiliser, on essaye de trouver des cas d'usage dans le monde professionnel pour l'intégrer. Donc ça, c'est une vision un peu plus macro de ce qui se passe. Et dans une vision un peu plus micro sur cette année, comme tu as pu le voir, il y a énormément de fonds qui ont été investis dans des startups pour concrétiser et matérialiser ces use cases qui vont changer complètement le monde professionnel et le monde tout court. Et ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on est en train de voir pas mal de limites sur, si on prend l'exemple de GPT-4, il y a pas mal de cas d'usage qu'on pensait possible et on voit en fait que c'est pas vraiment possible. Il y a pas mal de démos aussi qui ont été partagées il y a une année où on voit aussi les limites. Donc, c'est très intéressant de voir le filtre qui est en train de se faire sur des sujets où on peut aller pousser un peu plus et créer des produits qui vont être utilisés et qui vont apporter une vraie valeur ajoutée. Et à l'inverse, des promesses qui n'ont pas été tenues pour l'instant avec les limites qu'on est en train de voir sur les LLM.
Oui. Quand tu dis les promesses non tenues, tu penses à des exemples en particulier ?
J'ai vu que pas mal de personnes étaient déçues par Runaway, notamment sur la qualité de ce qu'on pouvait avoir. À l'inverse, c'est aussi un peu un feedback utilisateur où j'ai poncé pas mal d'outils IA pour essayer de voir qu'est-ce que je pouvais intégrer à mes workflows et à l'inverse, quels sont les outils qui n'ont pas encore de valeur ajoutée. Et donc, c'est aussi un peu une déception utilisateur que je partage, mais c'est complètement normal dans un écosystème où on a besoin de fonds pour créer des solutions d'IA parce que c'est très coûteux de construire sur l'IA. Et donc, il faut bien faire des promesses qui ont un peu à vocation d'aller disrupter des industries. Et donc, voilà pourquoi est-ce que j'ai partagé ce feedback.
Oui, tu as raison. Mais en fait, c'est vrai qu'après, il y a tellement de news. J'en parlais à l'instant. Ce que je dis, c'est que sur l'IA générative, grosso modo, chaque semaine, on a une news qui nous aurait fait sur les années 2010-2020, grosso modo, quasiment un an de progrès technologique. Et on a ça toutes les semaines. Donc, ce qui voudrait dire qu'on va grosso modo, est-ce que je dis une bêtise, 50 fois plus vite, quoi, tu vois. Enfin, bon, bref, un truc de fou. T'as raison, Runway à mettre en perspective avec Sora, donc que OpenAI a sorti, hein, a présenté donc leur modèle de génération de vidéos qui a épaté tout le monde. Et la même semaine, on avait aussi Google Gemini Pro 1.5 qui nous présentait. Donc j'ai hâte de le tester. Une fenêtre contextuelle à 1 million de tokens et qui fonctionne très bien avec plein de cas d'usage. Et donc après, c'est sûr que là-dedans, comme tu viens de le dire, c'est la course au fond, la course à la vitesse. Et des acteurs, t'entends, de plus petite taille, comme Runway, tu peux te dire, oula, ben, ça va être compliqué. J'ai vu que le CEO de Runway, quand on lui posait la question, est-ce que tu as vu Sora, justement, qu'est-ce que tu en penses? Il disait qu'il allait sortir très prochainement un truc bien mieux que Sora. On va voir ça. Donc, c'est incroyable ce qui se passe. Pour toi, Otman, ça a été une révolution, ChatGPT Midjourney, ou tu t'y attendais un petit peu?
Moi, pour donner un peu plus de contexte, j'ai commencé à utiliser ChatGPT assez tôt. Donc, c'était avril 2022. Fallait demander pour avoir l'accès au Playground. J'étais en bachelor et j'ai décidé de prendre comme sujet de thèse. À l'époque, j'étais à fond sur les marchés financiers, l'investissement, le trading, et j'ai décidé de prendre comme sujet. Est-ce que il y a une corrélation qui existe entre les émotions de l'humain et les marchés financiers? Mon tuteur de thèse à ce moment-là m'a mis sur le chemin de l'IA et m'a dit que ce serait super intéressant d'essayer d'introduire l'IA dans cette analyse. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des entreprises fictives, donc des thèses d'investissement, donc différentes boîtes, et j'ai essayé d'inclure des biais cognitifs dedans pour voir si l'IA était assujettie au même problème que l'humain ou non. Et un des exemples que j'ai, c'est j'ai créé une entreprise et j'ai dit qu'elle était backé par Elon Musk. En termes de chiffres, il n'y avait aucun revenu pour cette entreprise. Il y avait pas mal de problématiques. Et je l'ai mise en comparaison avec deux entreprises qui avaient de très bons résultats, qui étaient sur des marchés à forte croissance. Et GPT-3 à l'époque, dans le Playground, de manière systématique, décidait d'investir sur la boîte qui était backée par Elon Musk. Et donc, c'était un moyen pour moi de voir et de justifier que oui, on retrouve dans l'IA les traits, certains traits de l'humain, certains biais de l'humain, vu que ça a été entraîné sur des données générées par nous. Et j'ai vu assez rapidement le potentiel que déjà GPT-3 avait. Et depuis, je suis pas sorti de cette industrie et j'ai continué à suivre ça de très près.
Ah, incroyable, mais donc, ah oui, non, mais avril 2022, c'est super tôt. Donc, tu dis GPT 2.5, c'est ça?
3, 3.
GPT 3 direct, d'accord. Mais oui, donc c'est quand même très tôt. Donc, Otman, j'aimerais savoir, donc, toi, quel est le tool d'IA que tu utilises le plus? Et est-ce que tu as une utilisation un petit peu secrète ou hyper pratique que tu es prêt à nous partager? Sachant que tu es très avancé, je te connais là-dessus, donc on veut vraiment des secrets.
ChatGPT et notamment les GPTs sur ChatGPT qui sont en fait une version que tu peux pré-prompter avec des fonctionnalités définies comme la possibilité d'interagir avec des documents, de générer des images avec DALL-E 3 ou de chercher de l'information sur le web. En termes d'usage secret, pas vraiment, mais je vais approcher un peu mon approche systématique quand je crée des workflows sur ChatGPT avec les GPT. Donc, je détermine toujours l'intention que j'ai avec mon process. Donc, c'est quoi l'output que je vais avoir en sortie, donc le dernier output. Ensuite, je vais décomposer mon process en différentes étapes, en différents steps. Et je fais en sorte que chacun de ces steps soit indépendant, mais qu'en même temps, il a un impact sur le step d'après. Donc, je vais te donner un exemple. Je fais en sorte que l'input de mon second step, ce soit l'output de mon premier step. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est qu'aujourd'hui, pas mal de boîtes se sont pris un peu le mur quand elles ont essayé de créer des assistants hyper complets sur l'IA, parce qu'il y a une dilution de la compréhension des modèles quand on crée des prompts qui sont énormes avec plein de tâches qui peuvent être contradictoires. Alors que quand on a une approche un peu différente comme celle-ci, où on décompose un use case en différentes étapes et qu'on définit l'input et l'output de chacune de ces étapes, et que l'idée de prompter ces étapes, c'est le dernier step du workflow et c'est pas la première chose qu'on essaye de faire. En fait, on passe d'un modèle où on pense que le prompt engineering, donc comment coder l'IA en langage naturel, est la compétence la plus importante, à un modèle où la création d'un workflow efficient et cohérent avec le cas d'usage spécifique d'une entreprise ou d'une personne, bah ça devient ça le skill qu'il faut d'abord maximiser avant de penser à comment est-ce que je peux faire comprendre au modèle d'IA l'output que je veux. Donc c'est à peu près l'approche que j'ai systématique.
D'accord. Est-ce que tu peux nous illustrer ça un petit peu avec un exemple? Donc, je veux Dans output, j'aimerais qu'on ait un que tu me parles de quelque chose de concret et input aussi pour qu'on comprenne bien parce que c'est hyper intéressant.
Ok. Je vais matérialiser ça par un use case que j'ai construit pour une cliente avec qui j'ai
Super.
bossé.
Donc on parle de et juste après, bon ben exceptionnellement, on présentera Agency GPT. Mais alors démarrons déjà par un exemple pour bien illustrer ton workflow là.
Donc, imaginons qu'on. Ça, c'est un use case qui fait fantasmer pas mal de personnes sur l'IA. C'est comment utiliser ChatGPT pour rédiger un post LinkedIn, par exemple. Bah, dans ce use case, la première étape, ça va être l'idée. Donc, j'ai une idée de contenu, j'ai une intention, je veux partager cette idée. Comment est-ce que je fais pour créer ce post? Donc, la première étape, c'est que j'ai un GPT qui va aller chercher dans une bibliothèque de templates. Donc, des templates, c'est une structure à suivre pour rédiger un post. Donc, ce premier GPT, je lui donne juste l'idée. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller me chercher dans cette base de données trois différents templates que je peux utiliser pour décrire et pour écrire cette idée et en me donnant l'angle pour écrire cette idée. Donc, ça, c'est la première étape. Je donne une idée, je récupère un template. La seconde étape, c'est comment faire pour enrichir ce template avec du contexte qui m'est propre, du contexte qui est propre à mon positionnement, à mon entreprise, à ce que je veux mettre en avant. Et donc, ce second GPT, il est connecté à une base de données. De tous les posts que j'ai déjà écrits sur LinkedIn. Je peux aussi ajouter des articles dans cette base de données. Il faut vraiment le voir comme la base de contexte que tu veux utiliser dans la création d'un contenu. Donc, ce second GPT, il va prendre le template et l'idée de départ et il va aller me chercher depuis cette base de données du contexte, donc des phrases qui sont brutes. Donc, c'est mes phrases à moi que j'ai déjà écrites sur ce sujet pour m'enrichir avec ce contexte. Et enfin, en dernière étape, j'ai un GPT qui a été entraîné sur un style d'écriture en particulier. Et lui, son rôle, c'est d'utiliser le template, d'utiliser le contexte et d'utiliser l'idée pour écrire un post qui, en sortie, est à 80-90% prêt à être publié. Bien sûr, il y a une repasse à faire dessus pour personnaliser un peu plus sur certains points. Mais ce type de workflow, ce que ça permet de faire, c'est de réduire la friction et le temps nécessaire, mais aussi l'énergie. Il y a quand même un effort à faire à la fin, mais l'effort sur l'existant, il est moins important que l'effort quand tu veux partir juste d'une idée. Donc voilà un exemple.
Super, super, super exemple. Et donc maintenant, Otman, je vais te demander de nous présenter Agency GPT, donc la boîte, le produit que tu as lancé. Juste pour rappel, hein, pour le contexte, c'est le 7 novembre 2023 que Sam Altman OpenAI ont lancé les GPT, le GPT avec la possibilité ensuite d'aller sur le GPT Store qu'ils ont annoncé. Et donc, si j'ai bien compris, toi, à ce moment-là, quand tu as vu cette conférence, et donc Sam Altman, il y avait aussi Satya Nadella, et c'était un peu avant que bah, Sam Altman fasse chez OpenAI qui sortent et qui reviennent plus vers en décembre. Et donc, mais quand tu as vu toi le lancement de ce GPT Store, j'ai l'impression, Otman, que tu as eu une révélation ou en tout cas une idée très importante. Donc, est-ce que tu peux nous décrire donc Agency GPT?
Bah, je vais partager justement le contexte de ce 7 novembre et de ce qui s'est passé. Donc moi, à l'époque, je bossais encore avec Argile, avec Brivael et Laudis. Et ce qu'on faisait chez Argile à ce moment-là, c'est qu'on était en train de créer des assistants pour permettre aux équipes de collaborer sur leurs projets. Et on avait déjà créé une version des GPT qu'on appelait des tasks, des tâches, sur la plateforme pour justement pallier à la problématique d'un assistant qui sait tout faire avec un prompt qui est... avec une dilution de la compréhension du prompt. Et à ce moment-là, quand OpenAI a sorti les GPT, ben moi, en fait, j'ai vu que sur tous les mois qu'on avait passé à construire ce produit avec Argile, j'ai vu les limites en tant qu'utilisateur avancé de l'IA qu'on pouvait avoir sur le prompting et sur la création de workflows efficients et fonctionnels. Et donc, je me suis dit, il va y avoir vraiment une opportunité sur la création de GPT personnalisé pour des boîtes. Parce que aujourd'hui, la problématique qui était en train d'essayer d'être résolue par du software, donc par des SaaS, on va être en capacité de la créer directement sur l'interface de ChatGPT avec les GPT. Donc, il faut voir un GPT comme une mini-application. Et donc, si tu en crées plusieurs, c'est un mini-écosystème de fonctionnalités qui, utilisé de la bonne façon, crée une app à l'intérieur d'une app. Et donc moi, 3 jours après ça, j'achète le nom de domaine AgencyGPT. Je me dis, ben, c'est super compréhensible, c'est clair, c'est une agence qui crée des GPT pour les agences ou les entreprises qui essayent d'intégrer l'IA, qui sont déjà familiers ou non avec ChatGPT et qui veulent vraiment personnaliser un modèle et un cas d'usage pour pouvoir le prendre en main au plus vite. Parce que c'est aussi une des problématiques actuelles quand tu veux créer une solution d'assistant d'IA, par exemple, sur une interface en dehors de ChatGPT. Il y a plein de problématiques techniques qu'il faut prendre en considération, qui sont pas vraiment des problématiques auxquelles moi je fais face quand j'utilise une technologie existante, des modèles existants, une interface existante, les GPT, pour délivrer un use case pertinent, que ce soit sur de la création de contenu, que ce soit sur du résumé d'informations ou des process un peu plus avancés sur du sales que je pourrais te partager si ça t'intéresse aussi.
Peut-être que tu t'es dit, Otman, ça y est, ben c'est le lancement d'un nouvel App Store, quoi, grosso modo. Et tu t'es dit aussi, si je comprends bien, je fais le pari de l'acteur OpenAI, comme si je faisais le pari de Apple, non? Enfin, est-ce qu'on peut dire ça aussi?
Exactement. Et en fait, c'est ce changement d'état d'esprit et ce pari, c'est aussi parce que j'ai pris conscience que OpenAI est en train de passer d'une boîte recherche à une boîte produit. Donc, mais pas, c'est pas un shift complet juste pour devenir une boîte produit. Ils ont juste compris qu'aujourd'hui, si tu veux créer le modèle ou les modèles d'IA les plus avancés, il te faut de la data. Et cette data, cette donnée que tu veux récupérer, faut que ce soit une donnée d'usage, une donnée d'usage d'utilisateurs qui vont tester des choses, qui vont construire des choses. Et le fait de construire des GPT et de donner la main aux utilisateurs, ça leur permet à eux de récupérer une donnée qui est hyper importante pour l'amélioration de leur modèle. Et qui dit amélioration du modèle, dit amélioration de leur produit. Et donc, faire ce pari du prochain App Store sur OpenAI, ça m'a paru très cohérent et dans l'air du temps des décisions qui étaient prises par OpenAI.
Ok. Mais alors, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'open source, alors de l'autre côté?
Très, très, très bonne question. J'ai commencé à construire des workflows avec GPT-4, donc des prompts très spécifiques qui marchaient super bien, très vite. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'aujourd'hui, même avec les GPTs, j'arrive pas à avoir le même résultat que ce que j'arrivais à avoir au début de GPT-4. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand tu as un modèle qui est sur une vision produit que tout le monde utilise, il y a aussi des réglementations à respecter, il y a aussi une notion de sécurité à respecter. Et pour permettre cette sécurité, il y a un travail de fond qui est fait par OpenAI sur leur modèle. Ils testent des choses, ils améliorent, entre guillemets, le modèle. Mais ce qu'ils font pour, par exemple, augmenter la safety du modèle, c'est qu'on va ajouter des couches d'instructions dans l'instruction de base du modèle. Et cette instruction de base va réduire et va impacter la qualité que tu vas avoir en tant qu'utilisateur. De l'autre côté, l'open source, si on prend l'exemple, par exemple, de Mistral, ce que ça va te permettre de faire, c'est de prendre un modèle, de le host en local pour les modèles. Ils ont sorti un modèle qui tient sur un fichier de 5 gigas, si je dis pas de bêtises, et qui a la même qualité qu'un modèle GPT 3.5 Turbo, que tu peux run en local, que tu peux fine-tuner en local, et surtout que tu peux faire évoluer dans un environnement fermé, et donc qui va pas être impacté par des changements de modèle. Et donc, cet open source-là, déjà, ça permet de se protéger par rapport aux changements de modèles à venir, de un, et de deux, ça permet aussi à des entreprises qui, je prends l'exemple des boîtes qui bossent dans la cybersécurité, ils ont énormément de data sur leurs clients. Il y a plein de cas d'usage qui peuvent être intéressants pour eux, mais ils vont jamais aller mettre cette donnée sur un chat GPT. Et donc, avoir une solution qui peut être construite en local, dans un environnement fermé, donc pas connecté au web, d'être fine-tuné sur chaque set de data de leurs clients et eux aussi voir comment est-ce que ça peut être intégré de manière intelligente dans leur travail, bah ça augmente l'accessibilité à ces modèles et
Bien
surtout
sûr.
ça étend le champ des possibles des cas d'usage.
Oui, je comprends très bien. Donc, en fait, tu as une vision quand même très positive de l'open source, parce que y a des cas dans lesquels tu nous présentes là des cas qui sont très intéressants, hein, on comprend bien. Mais si tu t'appuies aujourd'hui sur OpenAI et les GPT, tu dois quand même penser que la performance et la plateforme OpenAI doivent être des éléments importants.
Exactement. Moi, mon pari, c'est que ça va être le plus gros player sur une vision produit avancée sur l'IA. Et ce qui me fait dire ça, c'est juste que y a un premium sur l'IA au premier mover, à la première personne qui a accès à la data, à la première personne qui entraîne les modèles. Et si on prend l'exemple de GPT-4. Je pense que l'entraînement, il a été fini en août 2022. Donc, ça fait pas mal de temps que l'équipe a accès à de la nouvelle data pour créer, pour fine-tuner, pour entraîner GPT-5. Et donc, je suppose que quand ce modèle va sortir, il y a pas mal de cas d'usage qui aujourd'hui sont pas possibles par les limites de GPT-4, qui vont être possibles avec GPT-5. Et comme c'est le premier modèle qui va permettre ces cas d'usage, on aura de la nouvelle donnée. Il y aura de la nouvelle donnée qui va être générée par OpenAI, qui va pouvoir être réutilisée pour continuer à garder ce gap entre ces modèles et les modèles d'autres entreprises.
Bien sûr, bien sûr. Ouais, donc, mais on a toujours, y a toujours quand même 6 mois d'écart, quoi, entre les modèles fermés type OpenAI et les modèles ouverts. Écoute, c'est un vrai sujet, c'est hyper intéressant. Et donc, Agency GPT, Otman. Donc toi, tu t'es dit, je lance cet acteur dédié donc à la création de GPT. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes premiers clients et aussi de GPT qu'on peut voir sur le GPT Store et que tu trouves super bien. Est-ce que tu peux nous donner ces exemples?
Bah pour les premiers clients, le premier gros workflow que j'ai mis en place, c'est pour justement la création de contenu sur LinkedIn. Et ça vient en fait d'un shift de. C'est une CEO de pas mal de boîtes e-com aux États-Unis. Elle a pas mal de business. Et elle a décidé de commencer à construire son branding, donc sa présence en ligne sur LinkedIn. Justement pour pouvoir créer un asset qu'elle va pouvoir ensuite utiliser pour de l'acquisition sur du B2B, donc d'entreprise à entreprise. Et elle avait besoin de déléguer 60 à 70% de l'effort de création de contenu à de l'IA. Elle avait essayé de faire ça de manière indépendante avec les GPT. Donc, elle avait déjà cette notion de il y a quelque chose à faire avec ces GPT. Donc, c'était aussi une utilisatrice avancée de l'IA. Mais elle a rapidement vu les limites d'avoir un seul ou deux GPT pour faire un workflow qui peut être décomposé de manière plus efficiente. Donc, ça, c'est le premier cas d'usage. Le second cas d'usage pour une seconde boîte, là, c'est un modèle un peu différent où c'est moi qui suis le responsable d'utilisation de ces GPT. Donc, je vends pas le système d'IA, je vends l'output du système d'IA et je suis l'utilisateur de ce système. Mais c'est un cas d'usage qui est très intéressant. C'est sur deux volets. Premier volet, c'est vraiment comment créer des campagnes d'outbound sur LinkedIn qui sont intentionnelles et personnalisées, sans trop les personnaliser justement, juste le juste milieu avec la bonne data de l'entreprise. L'exemple, c'est je crée un ce que j'appelle un positionnement GPT. Qui a accès à la value proposition, donc à ce que la boîte fait, aux objections de leurs clients, aux bénéfices que le produit apporte, à la transformation que le produit apporte. Et l'idée, c'est je récupère du contexte sur des prospects avec d'autres outils IA comme Perplexity ou Human Linker.
Comme
Perplexity,
Perplexity, alors
donc.
Perplexity, oui, on en parle tout le temps ici. Et Perplexity, donc un moteur de recherche avec l'IA qui cartonne, que plein de personnes commencent à mettre en moteur de recherche par défaut. Et deuxième outil, Hotman, excuse-moi.
Human Linker, c'est
Vas-y, décris-le si tu peux.
ça permet en fait d'analyser le profil LinkedIn d'une personne et de récupérer de l'information un peu plus liés au trait de personnalité, à comment cette personne voudrait être approchée, quelles sont les choses à pas faire. Et en fait, ça, c'est du contexte que je vais prendre. Je vais prendre avec Perplexity du contexte sur l'entreprise.
Ça, je connaissais pas, mais donc super intéressant, ton human linker. D'accord, donc là, tu vois la personne. Ok, tu as du contexte avec Perplexity. Ouais, vas-y alors. Ouais, super.
Donc, je prends du contexte avec Perplexity, qui est du contexte lié à l'entreprise. Je prends du contexte lié à la personne. Donc, c'est les deux composantes d'une approche intentionnelle en outbound qui est cohérente. Et ensuite, je prends cette information brute. Donc vraiment, je la modifie pas. Je la donne à mon GPT qui est entraîné sur le positionnement de l'entreprise. Et ce GPT, il va me proposer trois angles d'approche pour cette personne. Et par angle d'approche, c'est il a vu que dans les traits de personnalité, cette personne préfère être approchée avec la data. Voilà ce que la boîte fait, voilà ce que ma boîte fait. Donc, tu peux l'approcher sous cet angle-là en particulier. Et une fois que ce GPT m'a proposé ces angles, j'ai un deuxième GPT qui est entraîné sur mes approches préférées pour l'outbound et qui va lier en fait les deux. Il va lier l'angle personnalisé pour la personne avec mon approche structurée pour envoyer des messages sur LinkedIn. Et il va me pré-rédiger un message que je peux ensuite utiliser directement et l'envoyer à la personne. Donc en fait, ça réduit la friction encore une fois.
Alors, super. Donc, et ça, donc, c'est de l'outbound. Donc, c'est toi qui contactes. C'est un effort commercial sortant, donc, pour aller démarcher des prospects. Et alors, donc, dans ce que tu viens de nous décrire, Otman, je veux qu'on me comprenne bien, où est l'automatisation? Tu vois ce que je veux dire? À quel moment est-ce que ton GPT fait le job, ou à quel moment il y a une recherche manuelle et humaine de ta part? Tu peux nous redécouper ça ou pas?
Exactement. Dans les workflows que je construis actuellement, je n'ai pas encore ajouté une couche d'automatisation parce que justement, la qualité de l'output des modèles d'IA et des GPT actuels n'est pas suffisamment bonne pour que je la délègue complètement sans la présence d'un humain et sans
D'accord.
la vérification d'un humain. Donc,
Donc,
voilà la raison pour laquelle.
Perplexity et Human Linker, tu les fais à la mano. Donc, tu utilises ces deux outils manuellement, et c'est le contenu de ces deux outils que tu vas l'intégrer donc dans le GPT que tu, dans le premier GPT que tu constru que tu construis. Hein. C'est ça?
Exactement, exactement.
En input.
Exact, en input, ouais.
Et donc ton GPT fait ce qu'il a à faire, et en output, il te sort donc un message de contact pour cette personne. Et avec ton deuxième GPT, tu prends ce message-là, c'est ça, et tu le compares par rapport à tes messages que tu aimes bien faire pour sortir un message idéal, c'est ça?
Donc le premier, il me propose des angles d'approche. Il me donne pas le message, donc il me propose juste des
D'accord.
angles. Et le second GPT, lui, son rôle, c'est de prendre cet angle-là. Il a été pré-entraîné sur les meilleures approches que j'ai pour faire ma prospection. Et il va me pré-rédiger justement, en utilisant l'angle et ce pré-entraînement, un message qu'ensuite, moi, en tant qu'humain, je peux modifier si je préfère ajouter quelque chose ou retirer quelque chose. Et en fait, là. Ce que j'explique à pas mal de personnes en ce moment sur les GPT, c'est que aujourd'hui, tu peux standardiser et commoditiser du service par de l'IA et tu peux déléguer l'utilisation de cette IA qui respecte un framework en particulier, donc un process en particulier, à par exemple un assistant virtuel, à quelqu'un dans un autre pays qui va pouvoir faire cette tâche pour toi. Et on repasse sur un modèle d'humain IA, mais en fait, l'humain qui n'est pas censé avoir l'expertise nécessaire pour faire certaines tâches va être en mesure de faire cette tâche pour un autre humain qui, lui, a préconfiguré cette IA pour un cas d'usage en particulier.
Ah, ça, c'est très intéressant. C'est flippant et intéressant. Et de temps en temps, on dit donc que l'IA est un grand égalisateur, tu vois, voilà. Mais là, je ne sais pas comment qualifier ce déplacement, tu vois, ou cette assistance de l'IA sur des travailleurs moins qualifiés, peut-être, pour les augmenter. Ouais, c'est intéressant. Ok, super. Donc, très bon exemple. Est-ce que tu as un autre exemple de GPT à nous donner, Otman?
Il y en a un autre qui est super intéressant, c'est toujours lié à la prospection, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai décidé de me focaliser. Aujourd'hui, quand tu approches quelqu'un, le but, c'est d'apporter de la valeur d'abord. Donc la vente, c'est vraiment une création de confiance entre deux individus. On parle souvent de B2B, business à business, B2C, business à consumer. Mais en fait, c'est humain à humain. Tu es un humain avec une proposition de valeur, tu veux interagir avec un autre humain, faut créer un environnement de confiance. Aujourd'hui, pas mal d'entreprises créent des lead magnets. Donc, un lead magnet, ça va être imaginons une page web, une audit d'un positionnement ou de quelque chose. Donc, le but, c'est d'apporter une première valeur à quelqu'un et de récupérer des emails pour pouvoir ensuite contacter ces gens-là. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai créé un GPT qui va prendre. Je vais encore une fois aller chercher sur Perplexity et HumanLinker de l'information sur un prospect. Et ce GPT-là, je l'ai entraîné pour me construire une analyse de positionnement de l'entreprise de cette personne sur LinkedIn. Donc ça, c'est un GPT que moi j'utilise dans ma prospection. J'ai une analyse, un framework d'analyse. Donc comment est-ce que je fais une audit d'un positionnement LinkedIn qui est très défini avec des points définis aussi. Et ce que je fais, c'est au lieu de passer 2 heures par audit pour chaque prospect que je veux contacter, je suis passé à 20 minutes. Et comment je fais pour passer 20 minutes? Je choisis mes prospects. Je vais sur la page de leur entreprise, je vais sur leur page LinkedIn à eux, je récupère du contexte avec HumanLinker et Perplexity ou à la main, s'il y a des choses que je veux ajouter dans ce contexte-là, je donne tout ce contexte à ce GPT et lui, il va me créer dans un format en particulier une audit de leur positionnement avec des premiers conseils à appliquer. Je copie-colle cette audit dans une page Notion et j'envoie directement le lien au prospect dans un premier message. Et ça, c'est une manière d'apporter de la valeur en utilisant de l'IA, mais aussi en utilisant ta propre approche, ton propre système. À quoi bon passer 2 heures à chaque fois sur une tâche si tu peux la faire une seule fois, la standardiser et apporter, donner cette couche d'intelligence à l'IA et laisser l'IA le faire et ou t'accompagner pour le faire.
Ok, donc là t'arrives en fait pour apporter de la valeur à ton prospect. Donc tu lui fais un audit avec l'IA, quoi, en fait, un audit de son business, avec peut-être même des briques, des bases de recommandations, je sais pas, enfin, que tu lui génères comme ça, tu lui présentes ça, et là à ce moment-là, bah, tu lui apportes de la valeur, tu suscites son intérêt. Et après, donc, tu lui expliques comment aller plus loin et peut-être se faire ses propres, et tu lui fais ses propres GPT, quoi.
Exactement, exactement.
Alors ça, c'est très fort, tu vois, sur apporter cette valeur-là. OK. Et donc, maintenant, sur les deux cas que tu nous as présentés, quels sont les retours des prospects? Est-ce que tu as 8 sur 10 répondent? Est-ce que la plupart sont hyper excité, trouve ça génial. C'est quoi le... Est-ce que tu as des métriques là-dessus et un sentiment, quoi? Ouais.
Sur des métriques, j'ai utilisé ce process pour 10 prospects parce
OK.
que justement, j'attends d'avoir une intention au départ avant d'aller là. Et par intention, ce que je veux dire, c'est moi aujourd'hui, je crée du contenu sur LinkedIn au quotidien sur ce que je fais. Et quand quelqu'un va visiter mon profil, ben moi, je vais aller voir qui a visité mon profil. Et si cette personne correspond à mon client idéal, il y a une intention qui est créée et je vais aller voir le profil de cette personne et je vais les contacter avec ce processus. Et donc, sur les 10 personnes à qui j'ai envoyé ça, j'ai eu 6 réponses qui étaient intéressées et qui ont vu le document et qui m'ont dit, bah, c'est intéressant, vas-y, on peut potentiellement se faire un call pour en savoir un peu plus sur ce que tu proposes. Donc, c'est vraiment un moyen de personnaliser avec de la valeur sur la base d'une intention un processus de prospection qui, aujourd'hui, si on prend l'exemple du cold emailing, donc envoyer des emails à une base de 1 000, 2 000, 3 000 personnes, ça marche de moins en moins bien. Je connais quelques experts qui le font super bien, mais c'est parce que justement, leur approche est pas sur du volume, mais sur de l'intention et sur pas trop personnaliser l'approche, mais en même temps apporter un petit peu de valeur au départ pour ancrer le prospect. Et donc voilà, l'approche avec ces GPT, ça me permet à moi de vraiment personnaliser mon approche, d'apporter de la valeur, mais surtout de décider pour quelle entreprise ensuite je vais allouer mon propre temps de réflexion sur le positionnement. Donc, c'est un premier jet que je fais. Ensuite, c'est moi qui fais la majeure partie du travail. Mais pour l'acquisition, y a énormément de choses qui sont super intéressantes à mettre en place avec ChatGPT. Et je conseille n'importe qui est actuellement a pas encore mis les mains dans le cambouis de s'y mettre, de tester des choses avec ça et de rapidement voir qu'il y a plein d'idées qui vont venir à l'esprit. Et voilà.
Alors, c'est hyper intéressant. Donc, alors le message que tu viens de faire passer là aussi, la prospection de masse, qu'elle est un petit peu, c'est un peu la fin, quoi, tu vois. C'est sûr, les milliers, voire les millions d'emails balancés à la volée, je pense que les gens, ça les intéresse plus trop et qui veulent voir autre chose. Et de l'autre côté, en effet, l'IA générative, c'est ce qu'elle permet, c'est aussi une prospection. Personnalisé quoi. Mais après, je pense que si on le fait bien comme toi, tu le fais toi, en effet, t'apportes de la valeur, tu repasses dessus, c'est pas du spam, et donc c'est intéressant pour le prospect. Les chiffres que tu donnes, ils en témoignent parce que les gens sont intéressés. Donc c'est super. J'ai petite question, Othman. Est-ce que tu peux nous décrire un peu l'interface des GPT vraiment le béaba, mais pour qu'on se dise, tiens, là, tu viens de nous recommander de bricoler dedans. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Est-ce qu'on peut utiliser un browser, un navigateur Internet? Les grandes choses à savoir de la conception d'un GPT.
Pour créer un GPT, il y a différents composants. Bien sûr, on va lui donner un nom, on va lui donner une
Il faut avoir
description.
peut-être GPT plus.
Exactement, exactement. Il faut avoir ChatGPT plus au départ. Ensuite, pour le créer, il y a une petite pop-up Mets GPT sur l'interface de ChatGPT plus. Donc, on appuie sur en créer un. Et quand on en crée un, on arrive sur une interface avec deux possibilités. La première qui est un GPT Builder, donc c'est un système d'IA auquel on peut décrire ce qu'on veut, quelles sont les tâches qu'on veut que le GPT fasse. Et ce GPT Builder va construire le prompt et le GPT. J'ai fait ça quelques fois, mais malheureusement, on n'est pas encore à l'état où GPT-4 a une conscience de ses capacités et peut construire des prompts cohérents et fonctionnels. Ça marche, mais ce n'est pas vraiment les résultats qu'on veut avoir ensuite en sortie. Ou sinon, il y a la possibilité de le faire à la main. Et quand on veut le faire à la main, on va lui donner un nom déjà, ensuite une description. Ces deux premiers composants, ils n'ont pas d'impact sur la qualité du GPT, c'est vraiment juste pour l'utilisateur. Ensuite, on va donner une instruction. Et l'instruction, c'est là où il y a tout le prompt engineering, donc le prompting à mettre en place, avec pas mal de pratiques et de choses auxquelles il faut faire attention quand on construit un prompt. Mais il faut y aller, il faut créer un premier prompt, faut voir le résultat, faut itérer. Le prompt engineering, faut pas le rendre plus complexe que ce que c'est. C'est vraiment une interaction avec une machine dans le langage naturel, donc en anglais, et de voir ensuite quelles sont les raisons pour lesquelles l'output qui est sorti est pas bon. Donc déjà, il y a l'instruction. Ensuite,
L'instruction étant un petit peu donc le prompt du GPT en anglais de préférence, il est court, long, détaillé. Est-ce que tu utilises ChatGPT pour le construire?
Alors, pour construire mes prompts, j'utilise ChatGPT au départ pour que le modèle d'IA me décrive dans ses propres mots l'output que je veux. Donc, exemple, je vais envoyer un message de prospection qui est standardisé et je vais dire au modèle de me décrire ce message, de me décrire les composants de ce message, la structure de ce message. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que un modèle d'IA, l'input et l'output, sont cohérents. Et donc, de récupérer les bons mots utilisés par le modèle pour décrire ce format et cet output que je veux, bah pour moi, c'est un premier chemin à suivre et à inclure dans mon prompt à moi, parce que je réutilise les mots que le modèle même a utilisés pour décrire l'output que je veux. Donc, j'utilise l'IA pour me décrire les outputs que je veux, mais pas pour construire le prompt. Ensuite, pour les pratiques à suivre pour créer un prompt, déjà, il y a une saturation dans les GPT à 8000 caractères. Donc, c'est 1600, 1650 tokens pour les plus familiers. Et l'idée, c'est toujours commencer avec un rôle. Donc, vraiment donner un rôle au modèle. lui donner aussi un nom qui définit au mieux aussi ce rôle, donc aussi utiliser l'IA pour définir. Donc imaginons, on veut créer un stratégiste consultant, donc tu décris quelles sont les tâches que tu veux que ce consultant fasse pour toi, donc ça directement sur un chat normal avec ChatGPT, et tu réutilises les mots utilisés par l'IA dans le prompt que tu es en train de créer sur un GPT. Ensuite, il y a toute une phase d'instruction, d'une approche step by step, donc voilà comment est-ce que je veux que tu interagisses avec l'utilisateur, avec moi. Donc lui demander de te donner ces informations qui sont les inputs, l'approche d'utilisation aussi de cet input, comment est-ce que je souhaite que le modèle d'IA utilise chacune des informations que je lui donne. C'est une sorte de pondération que tu vas donner aux composants, aux inputs qui sont donnés au modèle pour optimiser l'output. Et ce que je fais aussi pas mal à la fin, c'est que j'ai une base que j'appelle Remember, donc rappelle-toi, et je réécris. Les modèles d'IA, il faut pas mal répéter parfois certaines choses. Je répète les instructions qui sont plus importantes que les autres. Ensuite, il y a pas mal de choses un peu plus techniques, de mettre en gras certains mots, de mettre entre parenthèses certains mots. Donc, il y a tout un process aussi de structure du prompt.
Excellent. Et donc là, tu construis ton GPT. Alors, je vais te poser une question. Moi, j'ai déjà des petites idées, mais c'est plus simple si c'est toi qui le dis. C'est quel est l'intérêt de construire un GPT plutôt que d'utiliser ChatGPT?
Alors, déjà, quand on va utiliser ChatGPT-4, par défaut, dans le modèle, la possibilité de créer des images avec DALL-E 3, la possibilité d'interagir avec un document et la possibilité de browse the web, donc de chercher sur Bing de l'information, ces features, ces compétences, elles sont incluses dans le modèle que tu utilises GPT-4. Le problème avec ça, c'est que pour pouvoir enclencher ces fonctionnalités, ces fonctions, il y a de l'instruction en plus qui est injectée dans le modèle GPT-4. Donc, imaginez aujourd'hui, quand on construit un GPT, on construit un prompt. Quand on a une discussion avec un chat GPT-4 de base, il y a un prompt existant qu'on ne voit pas, qui a été mis en place par les ingénieurs d'OpenAI, qui permet en fait à l'utilisateur d'interagir avec ce modèle. Bah, dans ce prompt-là, l'instruction est beaucoup plus dense que l'instruction d'un GPT. Que font les utilisateurs avancés actuellement qui n'utilisent pas les GPT? Ils ont des librairies de prompts et ils vont donner le prompt en début de discussion avec ton GPT. Mais ce qui se passe quand tu fais ça, c'est que tu as le prompt de base, ton prompt à toi, et il y a une dilution de la compréhension du modèle sur ta tâche spécifique et sur la raison pour laquelle tu as créé ce prompt. À l'inverse, le modèle et le prompt utilisé dans les GPT, il est différent de celui dans GPT-4 directement, parce que l'intention de cette feature par OpenAI, c'est de permettre à l'utilisateur de donner une instruction précise au modèle. Et cette petite différence, quand tu ajoutes par-dessus la possibilité que tu peux choisir, donc décocher certaines fonctionnalités, donc moi j'ai des GPT où il n'y a ni la possibilité de rechercher sur le web, ni générer des images, ni interagir avec un document, parce que ça sert juste
Bien
à
sûr.
rien pour le rôle de ce GPT. Bah, là, on se retrouve avec un prompt qui est beaucoup plus épuré, avec une instruction qui est linéaire et qui rentre pas en contradiction avec une instruction de base.
Oui, tout à fait. Et ça devient utilisable par n'importe qui, en fait, de l'autre côté. Ok, super. Le GPT qui t'a le plus fait marrer ou qui t'a le plus étonné que tu as vu sur le GPT Store, tu peux m'en donner deux, hein, si tu veux. Et pas les tiens, pas les
Oui.
tiens.
Non, 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 non. Il y en a un c'est pas qui m'a fait marrer, mais ça a changé la définition que j'ai de l'acquisition pour les applications existantes, pour les softwares, pour les SaaS. C'est celui de Whimsical et celui de Canva. Donc, Canva, c'est connu, ces deux applications. Et en fait, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont créé des GPT dans le store qui sont publics. Donc, si tu as un abonnement GPT+, tu peux les utiliser. Et quand tu crées un GPT, il y a une dernière couche qu'on n'a pas traitée juste avant, qu'on appelle des actions. Tu peux créer. Et en fait, pour créer ces actions, là, on rentre dans des sujets plus techniques. Faut pouvoir coder. Il faut avoir une compréhension plus avancée du code et pas juste de l'interaction avec de l'IA. Et ce que ça permet de faire, par exemple, celui de Whimsical, c'est je vais décrire un process, je vais décrire quelque chose, et ce GPT va me créer directement sur l'application un graphe, un diagramme, un visuel qui représente les mots que j'ai, le process que j'ai décrit. Et donc, pour quelqu'un qui se balade sur le store des GPT, vous allez vous retrouver avec pas mal d'applications qui sont connues, qui existent avant même ChatGPT, qui ont des bases utilisateurs énormes, qui font énormément d'argent aussi, qui créent des GPT et qui vont trouver de nouvelles audiences parce que cette nouvelle audience a adopté l'interface chat de ChatGPT. Et ça, c'est pas le GPT qui m'a fait marrer, mais c'est vraiment cette conceptualisation que le chat peut être par essence la meilleure interface pour pas mal de choses et pour pas mal d'applications qui de base ne sont pas faites. Par exemple, Canva, on crée des designs sur Canva. Personne n'aurait pensé au départ que le chat était la meilleure interaction entre l'utilisateur et l'application. Et là, on voit que si, qu'il y a pas mal de choses super cool à faire avec ces GPT pour des apps qui n'ont pas par vocation d'être dans le chat.
Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu récemment et que je trouve très important. C'est que, en fait, le chat devient un nouveau média, quoi. Comme on a les réseaux sociaux, comme on a Internet, du texte, un journal, voilà. Le chat devient un média. Et ça, c'est quand même un truc hallucinant. Parce qu'on va prendre l'habitude d'interagir avec les chats GPT, avec les services clients des boîtes, avec d'acheter nos billets de train et tout ça avec ces chats, et de consulter nos news aussi en chattant, quoi.
Ouais, il y a pas mal de risques aussi avec le fait que les chats d'IA prennent le pas sur les médias. On a pu le voir un peu avec Gemini, notamment la partie création d'images récemment qui a été labellisée un peu de woke parce que pour justement créer des modèles qui peuvent être utilisés par tout le monde sans se retrouver avec une poursuite judiciaire sur le dos, ben faut que ça plaise à tout le monde, à toutes les minorités, et donc on se retrouve à prendre en fait des modèles d'IA, à ajouter des couches par-dessus, et ces couches par-dessus qui sont ajoutées prennent le pas sur des points de vue un peu plus politiques, qui par essence, c'est pas la vocation d'un LLM. Il y a pas mal de risques et il y a pas mal de biais qui peuvent être confirmés par ces modèles-là. Et d'où on reboucle sur l'open source comme étant une solution sur ce sujet.
Ouais, t'as raison. Et ces médias, ils sont orientés, ils ont des biais. Enfin, on peut les voir comme ça. Et on a vu ces gros problèmes avec Google qui a donc stoppé la génération d'images sur Gemini. Ouais, tout à fait. Otman, j'aimerais profiter maintenant de ta présence là pour parler un petit peu, aller un peu plus loin sur les agents. Qu'est-ce que tu penses des agents? Donc un agent, hein, c'est une IA qui est capable d'avoir des actions et un comportement donc interactif sur donc plusieurs étapes aussi. Hein, c'est plutôt que juste une étape comme sur ChatGPT. On avait vu ça un petit peu avec AutoGPT, Baby AGI. Aujourd'hui, c'est l'énorme sujet. Là, tout le monde recommence à parler de ça. Les agents deviennent une réalité. Les GPT d'OpenAI sont une forme d'agent, très clairement. Il y en a d'autres. J'ai reçu très récemment Hugo Mercier, donc avec Twin, qui fait des agents avec la vision. Il y a les agents aussi de Hugging Face. Parle-nous des agents. Quelle est ta vision par rapport à ça? Est-ce que c'est le futur?
Pour moi déjà les agences c'est la standardisation de tâches à grande échelle et en fait la seule variance qu'on a dans ces tâches c'est le contexte qui va être utilisé et étant parlé de pouvoir donner à ces agents plusieurs tâches, plusieurs actions, ces tâches elles vont être enclenchées. Donc il nous faut des triggers, il faut définir quelles sont les informations que je veux, sur lesquels je souhaite que cet agent prenne action. Et ma théorie, c'est que l'évolution des GPT, ça va être un play un peu plus agent avec la possibilité de les faire interagir à plus grande échelle avec des environnements externes. C'est déjà le cas avec les actions qu'on peut coder sur les GPT. Et si je devais aller plus loin, je pense vraiment que la notion de workflow que j'ai et qu'on a actuellement, elle va être complètement basculée. On n'aura plus de workflow. On aura un agent. Et cet agent-là, pourra, sur la base, d'une tâche qu'on lui partage, construire, les actions qui lui sont propres avec les triggers qui lui sont propres, pouvoir être connecté à d'autres outils qu'on utilise déjà. Donc ça, c'est aussi un sujet récurrent avec toutes les personnes avec qui j'échange, les entreprises avec qui j'échange, c'est comment intégrer des systèmes d'IA à un tech stack, donc aux technologies qu'on utilise nous actuellement en interne, de manière cohérente. Et à terme, l'agent pourra, par essence, définir le code qu'il faut, les tâches qu'il faut, les actions qu'il faut pour s'intégrer aux différents workflows des entreprises. Et donc, on n'aura plus de workflow, on aura juste des agents pseudo-autonomes qui vont évoluer dans des environnements qui sont ouverts et fermés. Donc, fermé, c'est le setting de départ, c'est le contexte qui lui est donné au départ, c'est la tâche qui lui est donnée au départ. Et ouvert, c'est les applications avec lesquelles on souhaite que ça interagisse, ainsi que l'information qu'on souhaite que l'agent aille chercher sur que ce soit sur Google, sur Bing ou sur d'autres LLM aussi, si les LLM deviennent des médias aussi de recherche.
Ouais, super. Donc les agents, en fait, c'est ce qui va peut-être aussi avoir nous mener faire une bonne partie du chemin vers l'AGI. Donc, c'est plus de raisonnement, plus d'autonomie, plus de planification. Et donc, pour qu'on leur délègue un maximum de nos tâches et que donc on se concentre, nous, sur ce qui nous est agréable. OK. Otman, tu m'as dit aussi, j'ai trouvé ça super en préparant, que tu as rencontré, tu as discuté avec certaines personnes qui avaient commencé à développer des solutions d'IA un peu de leur côté, sur des modèles open source ou sur d'autres solutions, et qui revenaient en arrière pour se dire, bon, bah, finalement, je vais faire plus simple, je vais faire un GPT, non?
Exactement. Il y en a pas mal qui repassent sur les GPT par la
J'ai voulu faire mon
simplicité.
lama, mon fine-tuner mon lama, tout ça. Finalement, c'est compliqué. Sur les GPT, ça va être plus simple, c'est ça l'idée, ouais.
Bah, déjà, c'est compliqué, c'est coûteux. Et donc, la clientèle qui est prête à mettre des budgets est différente. Et donc, en tant que builder, que personne qui crée des solutions d'IA personnalisées, le choix se tourne vers la facilité de monétisation. Et aujourd'hui, les GPT, c'est vraiment le format le plus simple à monétiser parce que la technologie et la responsabilité de la technologie, elle n'est pas la personne qui crée le GPT, elle est à OpenAI. Et donc, certes, ça a des risques parce que quand c'est down, bah c'est down. Mais quand c'est down, c'est pas celui qui a construit la technologie qui est responsable du fait qu'il y a un problème avec l'outil. Donc ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est la confiance. On voit de plus en plus de modèles qui apportent pas vraiment de résultats concrets. On a pas mal prôné au départ des modèles plus petits, avec plus petite taille, avec moins de paramètres, qui vont potentiellement être plus pertinents sur certains sujets. On a aussi parlé du fine tuning. Et on voit en fait que toutes ces objections à utiliser les GPT, elles sont ou utiliser les modèles d'OpenAI, elles sont balayées par de nouvelles features qui sont inclus en fait. Donc chaque problématique devient une feature. Et ça, c'est super intéressant à voir parce que les builders qui proposent des services, c'est les personnes qui sont les plus proches de l'argent en fait. C'est soit le use case est pertinent et le client paye, soit il n'y a pas de use case pertinent et il n'y a pas de valeur ajoutée et le client, il n'y a pas de client. Et donc que eux prennent cette décision, ça montre qu'il y a un feedback de marché qui remonte de plus en plus vers on veut des solutions tout de suite. On a passé la phase de sensibilisation, on a passé la phase de formation, et les boîtes qui cherchent à intégrer des solutions, elles veulent des solutions fonctionnelles au plus vite. Et donc voilà.
Ouais, super intéressant. Et tu as raison, et OpenAI, comme ils ont de l'avance, en fait, ils regardent ce qui se passe sur le marché. Ils ont regardé de très très près, ils l'avaient dit, hein, AutoGPT, hein, même Carpathy, mais qui vient d'en parler, qui vient de partir d'OpenAI, mais on savait qu'ils trouvaient ça super intéressant. Et quelques mois plus tard, ben, y a les GPT qui apparaissent. Donc, ils regardent ça de très très près. Otman, deux sujets aussi. Est-ce que tu peux nous... Ton aventure avec Agency GPT, c'est que le début, mais c'est passionnant et je te souhaite énormément de succès que tu mérites. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais, ton building public, la manière dont tu documentes aussi tout ça? Est-ce que ça te sert? Est-ce que ça t'apporte des clients? Pourquoi tu le fais?
Pour aussi apporter un peu plus une définition plus complète sur le building public pour les personnes qui sont pas familières avec le terme, l'idée du building public, c'est de partager son aventure de création de projets, de produits, que ce soit une application, que ce soit une agence, sur un réseau, que ce soit Twitter ou LinkedIn. Moi, j'ai décidé de le faire sur LinkedIn parce que justement, j'ai vu que y avait pas mal de gourous qui n'étaient pas trop authentiques. Tout le monde montre que la bonne face des choses. Sur ce réseau. Et j'avais envie de prendre un peu ça à contre-courant et d'être super transparent et authentique sur mon approche. Donc, je partage mes chiffres, je partage les clients que je signe, mes échecs quand j'ai raté, j'ai pas réussi à signer un client. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est déjà pour construire une vraie communauté, parce que je pense que créer une audience, c'est plus suffisant. Faut créer une communauté, faut créer un groupe de personnes engagées autour d'un sujet. Et la meilleure façon de construire cette communauté, c'est de tisser du lien et tisser de la confiance. Et cette confiance, il n'y a rien de mieux que du building public en toute transparence pour le faire. Donc, mes hauts, mes bas, mes succès, mes échecs, mes questionnements, parce que c'est ça aussi, créer un business. Il n'y a pas, c'est pas tout rose, il y a des doutes, c'est normal. Et le fait de le partager, bah, même moi, ça me permet de l'extérioriser. Donc, il y a aussi un vrai impact interne. Et le second gros impact, c'est sur la clarté d'esprit que j'ai en début de semaine. Donc, je fais un post building public chaque lundi sur LinkedIn. Et ce post, en fait, c'est une réunion hebdomadaire avec moi-même sur qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé, quels sont les focus de la prochaine semaine. Et le faire juste sur un carnet tout seul, ben, c'est un peu nul, c'est un peu ennuyeux. Je suis sûr que j'aurais trouvé une raison de ne pas le faire une semaine ou une autre. Mais d'avoir ce rendez-vous hebdomadaire avec mon audience, ma communauté, bah, ça me force à le faire et ça me force à le faire bien. Et ça me permet vraiment de commencer ma semaine avec une idée très, très claire de ce que je dois faire et de pouvoir avancer dessus. Parce que je me dis aussi, je suis responsable de montrer ce que j'ai fait la semaine prochaine. Donc, ça m'aide pas mal. Et pour l'angle client, bah, c'est compliqué parfois de dire oui ou non. Je vais te donner un exemple. Cette semaine, lundi, hier, quand j'ai fait mon post budget public, 20 minutes après, j'ai reçu un message d'un prospect avec qui j'avais déjà échangé, qui m'a dit, ah, mais on n'a toujours pas fait notre call, faut qu'on le fasse. Et je suppose qu'il m'a envoyé ce message à la suite de mon post. Et donc, oui, il y a un impact sur la clientèle. Je parlais tout à l'heure de la création de confiance avec sa communauté. Mais quand tu crées du contenu sur LinkedIn, tu crées aussi une confiance et un lien avec des gens qui ne likent pas, qui commentent pas, mais qui sont juste là à lire ton contenu. Et le jour où cette personne va montrer une intention, que ce soit visiter ton profil, liker un contenu et qu'elle est dans ton audience, aller vers cette personne, bah, il y a déjà un lien qui est créé parce qu'elle t'a déjà lu, elle sait qui tu es, elle sait ce que tu fais et il y a une confiance qui est créée. Donc,
Bien sûr.
oui, mais c'est un jeu long terme aussi.
Oui, tout à fait, tout à fait. Écoute, c'est ce que je fais aussi avec le podcast. Mais en jouant bien et tout simplement hein, en faisant en étant sérieux, fiable et en étant là tous les jours, tu vois, ben, je pense que ça marche bien. Question, Otman, sur les GPT, est-ce que tu as un tarif que tu affiches? Comment ça se passe? Pour notre audience, s'ils veulent te contacter pour te demander ça.
Alors, pour les premiers use cases que j'ai partagés, je vais partager le tarif parce que je l'ai aussi dit pas mal de fois sur LinkedIn. C'est des workflows qui incluent entre 4 et 6 GPT, donc les use cases que j'ai partagés. Et le tarif, c'est à 2500 euros pour la création du workflow. Et dans mon approche, j'optimise toujours sur la valeur du workflow, notamment dans la négociation avec la première cliente. Sur la tarification, elle m'a dit, ben, est-ce qu'on peut enlever un ou un GPT ou un autre pour essayer de réduire un peu le tarif? Et je lui ai dit qu'en fait, pas du tout. Moi, j'optimise sur la valeur. Donc, on va garder le même tarif et on va augmenter la valeur du workflow pour que ce soit cohérent pour toi de payer ce prix. Ensuite, mon approche aussi, c'est vraiment d'audit sur un système existant et de vraiment voir est-ce qu'il y a moyen de créer et d'ajouter de l'IA par-dessus ou non. Si je vois que c'est pas possible et que les résultats vont pas être bons et que ça va prendre autant de temps d'utiliser l'IA et que l'humain utilise l'IA pour avoir l'output final, je l'ai dit à plusieurs personnes déjà que ça servait à rien parce que pour ce use case aujourd'hui, c'est pas avec des GPT que tu vas réussir à avoir quelque chose de fonctionnel. Donc voilà à peu près mon approche et les tarifs.
Excellent. Donc, à toute l'audience Comptoiria, donc contactez Hotman de ma part si vous voulez un beau GPT sur mesure et donc cet audit et surtout donc un maximum de création de valeur. Hotman, pour finir, qu'est-ce que tu penses niveau AGI? Est-ce que tu as une timeline là-dessus? Est-ce que tu penses que ça va arriver bientôt?
J'ai hâte de voir les résultats de GPT-5. Je pense que ça va être vraiment le facteur déterminant sur la suite des événements. Donc par timeline, temporalité, je peux pas donner vraiment de chiffres, d'années, mais je veux bien donner des événements. Et pour moi, un GPT-5 qui a une pseudo-conscience de soi, de ce à quoi il peut servir. Et notamment, j'ai hâte de tester un GPT-5 sur la création de GPT pour voir à quel point est-ce qu'il va être bon pour comprendre l'intention de l'humain et à quel point est-ce qu'il va être bon pour décortiquer et décomposer cette intention de la bonne manière pour créer des systèmes fonctionnels. Donc ça, c'est le premier événement. Et le deuxième événement, c'est voir à quel point est-ce qu'on sature ou non sur l'architecture actuelle des LLM. Il y a un truc que Brivael, CTO chez Argil, avec lequel on a discuté pas mal sur ce sujet, et il dit on n'est pas du tout à l'abri que quelqu'un dans son sous-sol, dans un pays, découvre avec une illumination une nouvelle architecture qui nous permet de partir sur d'avoir une avancée, un nouveau breakthrough dans la technologie et l'architecture des LLM qui justement pourrait nous permettre d'atteindre une AGI. Chacun le définit comme il veut, mais voilà à peu près l'approche que j'ai. Après, il y a autre chose aussi sur lequel il faut se pencher, c'est la conscience humaine. On a du mal à définir déjà cette notion. Est-ce que c'est nos pensées? Est-ce que c'est nos souvenirs, nos émotions, nos sensations? Est-ce que c'est le rapport qu'on a à notre environnement, aux gens avec qui on échange, le tout en même temps? On n'a pas de réponse définitive et scientifique et actée. Et donc, tant qu'on n'est pas capable de définir cette notion-là, et on ne peut pas vraiment définir un rapport entre l'architecture de nos neurones et comment est-ce que notre cerveau fonctionne, comment est-ce que notre conscience fonctionne, et essayer d'extrapoler ça à une machine. Donc, je pense qu'on devrait d'abord essayer de trouver des réponses sur notre conscience à nous avant d'essayer de trouver une réponse pour l'IA. Et est-ce qu'on veut? Est-ce que si c'est possible, est-ce qu'on veut apporter justement cette couche de conscience et des DI, c'est pas moi qui vais donner une réponse définitive, je sais pas, et l'avenir nous le dira.
Ok, super intéressant. Merci beaucoup, Otman. Demis Hassabis de DeepMind a fait pas mal de déclarations là aussi sur le sujet récemment, hein, en disant qu'on n'était pas encore arrivé non plus au bout du scaling, donc des performances hein, associées donc à la taille des modèles, mais que selon lui, il faudrait encore quelques avancées. Il parle aussi, lui, d'une AGI pour 2030. Sam Altman, je pense que de ce que je comprends, peut-être qu'il voit les choses arriver peut-être un peu plus tôt. Peut-être que il a aussi d'autres éléments. Mais comme tu dis, on va attendre GPT-5 avec beaucoup d'impatience. Peut-être après les élections américaines, on verra. Otman, est-ce que tu as un livre ou un film de science-fiction ou autre à nous recommander?
La fameuse question de fin des podcasts de Nico. Il y a un film que j'ai revu il y a 3-4 semaines qui a pas de rapport avec l'IA, mais qui est de science-fiction, mais que j'ai vu avec le prisme de l'IA. C'est Time Out. Je sais pas si tu l'as déjà vu.
Avec Justin Timberlake?
Exactement, exactement.
Yes, bien sûr. Super musique.
Ouais, vraiment, et de le voir avec justement ce prisme de l'IA, il y a trois points que j'ai, deux ou trois points que j'ai retenus. Le premier, c'est on parle beaucoup d'abondance avec l'IA. Sam Altman en parle beaucoup. L'abondance d'intelligence et avec dans l'autre boîte où il a investi l'abondance d'énergie. Et pour lui,
Et
c'est
Lyon,
les
bien
deux
sûr.
Lyon, les deux entités qui vont nous permettre de résoudre pas mal de problèmes. Mais justement, ce film nous montre que pas mal de personnes ont une abondance de temps et qu'on se retrouve en fait avec les mêmes disparités socio-économiques dans un pays. Et on le voit aussi aujourd'hui avec l'IA. Moi, je connais pas mal de gens de mon âge, j'ai 23 ans, donc Gen Z tout jeune, qui n'ont jamais utilisé ChatGPT. Et donc, on voit aussi qu'il y a une vraie disparité dans l'appréhension de l'IA. Et ce n'est pas parce qu'on a une abondance que ça va être accessible à tous. Donc ça, c'est le premier point. Et le second aussi, c'est vraiment la valeur aussi, la valeur de la vie humaine dans un monde d'abondance. C'est un des sujets, je me souviens plus avec quel invité, mais tu l'avais traité sur l'immortalité, l'avancée sur le domaine de la médecine.
Ouais.
Aujourd'hui, pas mal de gens qui décèdent, ben, ça, c'est des problèmes techniques. T'as un AVC, t'as un arrêt cardiaque, c'est des problèmes techniques. Et si on avance avec des modèles d'IA sur le côté de la médecine, où on peut aussi avoir un calcul probabilité de risque pour chaque individu, on pourrait résoudre pas mal de ces problèmes. Et est-ce que justement, cette abondance-là, elle redéfinit pas beaucoup trop de choses et beaucoup trop de sujets? Et donc, le second point sur lequel le prisme de lecture de ce film a fait réfléchir sur l'IA, c'est la valeur de la vie humaine. Donc, dans un monde d'abondance où l'IA pourrait permettre de résoudre pas mal des problèmes techniques qui sont les raisons pour lesquelles on décède, un arrêt de cœur, un AVC, et qu'on arrive aussi à avoir un calcul de probabilité sur tu es à risque de tant de pourcents. Et donc, on arrive dans un monde qui est hyper déterminé, qui est déterminé à l'excès. Et donc, comment on fonctionne dans un monde d'abondance? On n'a jamais encore eu ce prisme, même si j'aime bien faire un peu le parallèle avec l'alimentation. Donc, dans certains pays où il y a des énormes taux d'obésité, bah, il y a une abondance de nourriture. Et on voit que l'abondance n'est pas toujours synonyme de positivité et d'impact positif sur une société. Donc, c'est un film à voir que je conseille. Et d'essayer de le voir avec vraiment ce prisme d'abondance, ça fait réfléchir.
Oui, c'est vrai que bah, comme le dit Sam Altman, on arrive à un coût zéro de l'intelligence, qu'on a une abondance de l'intelligence. Espérons que ça nous disponible, espérons que ça ne nous rendra pas complètement stupides en mode Wall-E. Et tu as raison, ce film, il est excellent. Et c'est vrai que bah, ce principe-là de le temps, c'est de l'argent là, qui s'affiche sur leurs bras, là, ça fait beaucoup réfléchir. Ouais. Otman, merci beaucoup. J'espère que tu vas avoir plein de commandes de GPT pour Agency GPT via nos auditeurs de Comptoiria. En tout cas, je les encourage bah, à t'en commander, mais aussi à en parler autour d'eux. Et peut-être aussi que tu pourrais nous faire tester un de tes GPT un jour, si tu veux. On mettra un lien et comme ça, l'audience pourra voir ce que c'est, comment ça fonctionne.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Otman, et à très vite. Salut!
Merci à toi, Nico. Salut.
Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à deux amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meet-up mensuel Comptoiria. À bientôt!